Donc aujourd'hui, je voudrais aborder voilà, aujourd'hui je voudrais aborder le problème tout d'abord du corps. Non pas qu'on n'en ait pas déjà parlé, mais revenir un petit peu et puis voir toute la richesse qu'il peut y avoir dans dans cet aspect-là. Parce que dans la tradition bouddhique, le corps joue un rôle essentiel. J'ai l'impression que rares sont les chemins spirituels dans lesquels le corps joue un rôle tellement important. Si on parle de la mystique chrétienne et autres, on a l'impression que le corps est jamais aussi important qu'il l'est dans la tradition bouddhique. Donc, revenir un petit peu sur cet aspect-là. On voit bien dans les indications qu'on donne quant à la pratique, donc combien on est finalement assez centré sur le corps, les perceptions sensorielles aussi, mais essentiellement donc les sensations corporelles. Mais quand on parle du corps, en fait, on a l'impression qu'on sait de quoi on parle, mais on peut l'aborder de deux manières différentes, sous deux angles différents. Et c'est important de faire cette distinction quand on parle du corps, de savoir de quoi on parle, sous quel angle on l'approche. Donc c'est un peu comme si on avait deux corps dont on parle, bien sûr il n'y en a qu'un, mais qu'on l'approche sous des angles différents. Tout d'abord, on a le corps en tant qu'objet, c'est-à-dire le corps qu'on montre, le corps qu'on parle, le corps qu'on voit, que les autres voient, qu'on voit soi-même. Et puis il y a le corps sujet, le corps vécu, le corps que je suis. Et sont deux approches différentes. Je vous donne une citation du philosophe allemand Schopenhauer parce qu'il parle de ça, aussi très conscient de ce double aspect du corps. Voilà ce qu'il dit. Il dit: dans la mesure où je suis un corps au milieu des autres corps, je me représente moi-même comme un objet. Mais dans la mesure où je suis mon propre corps, je suis collé à moi-même, éprouvant dans ma chair l'évidence immédiate, certaine et indubitable de ma propre existence, ou si l'on préfère, de ma propre vie. Donc, cette approche du corps qui est un corps de représentation, qui est important évidemment pour la communication, et puis après ce corps vécu dans l'intimité comme qualité de présence, évidemment que personne d'autre peut éprouver à ma place. Alors que le corps objet, le corps que je montre, que les autres voient, évidemment, je peux demander aux autres comment tu me trouves aujourd'hui. Quand ils sont gentils, ils diraient: oh, c'était superbe, voilà. Bon. Donc, ce corps, tout d'abord, objet qu'on montre, qu'on parle, qu'on échange, il est évidemment important dans la communication, mais aussi on peut lui donner une trop grande importance, en s'attachant beaucoup à son apparence. Donc, ça devient l'aspect devient un objet d'attachement, de fierté, et puis aussi d'embarras, quelquefois, avec le vieillissement, la maladie et autres, ça peut devenir plutôt quelque chose, dans le fond, dont on est un petit peu moins satisfait. Mais ceci, évidemment, ne tient pas au corps lui-même, ça tient au rapport qu'on a avec le corps lui-même. Donc, ce corps que l'on montre. Et dans le sutra, le Satipatthana Sutra, tout d'abord on parle de ce corps qu'on montre, ce corps objet qui est un corps de représentation, mais aussi un corps de communication. Je me souviens très bien du maître Goenka, en Anabodh Gaya, avec beaucoup d'humour, comment il parlait de ceci. D'ailleurs, il était très créatif, il disait: ben voilà, On admire, voilà, on a une femme, on admire, waouh, ses beaux ongles, c'est magnifique, etc., etc. Et tout d'un coup, le soir, on les retrouve dans la soupe, ce bout d'ongle, puis on dit, waouh, c'est dégueulasse quand même. Et pourtant, c'est le même ongle. Donc, voilà, il décrivait ça avec beaucoup d'humour. La même chose, ses cheveux sont vraiment magnifiques. On en trouve un sur le beurre, on dit, ah non, ça ne va pas du tout. Pourtant, c'est exactement le même cheveu. Donc, pour simplement montrer que cette espèce de fascination qu'on peut avoir, qui fait partie un peu de la manière dont nous sommes structurés, eh bien, à y regarder de plus près, finalement, on essaie de se fasciner par l'apparence du corps. Et dans le sutra, le Satipatthana Sutra, tout d'abord, pour enlever cette fascination, eh bien, on va regarder non pas depuis l'extérieur, un corps paré, etc., parfumé, mais on va simplement regarder sous la surface, et là, on se rend compte que c'est un petit peu moins fascinant, quoi, évidemment, les organes, etc. C'est toute cette réflexion, c'est une méditation qui revient constamment dans la tradition bouddhique. D'ailleurs, je pense qu'on a d'autres manières dans les autres traditions spirituelles aussi pour enlever cette surévaluation du corps dans sa beauté, du corps qui est montré, qui peut être un objet évidemment d'orgueil et un objet de désir immense. Donc on a tout d'abord ce questionnement par rapport à ce corps objet en soi-même et aussi dans le corps des autres. Et je crois que d'une manière peut-être un peu moins dramatique ou moins complexe, on peut voir en soi-même combien par moment ce corps peut être un objet de fierté et par moment au contraire un peu d'embarras dans la maladie et autres ou dans le vieillissement. Et évidemment, c'est important de s'en rendre compte parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a une surévaluation, une surimportance. Cette importance qu'on attache à la forme, à l'apparence. Donc ça, c'est le premier angle. Et on va voir que dans la méditation, très souvent, on passe de l'un à l'autre sans rendre compte. Donc cette importance de la présence au corps, elle est non seulement soulignée dans le bouddhisme primitif, mais on la retrouve aussi dans le bouddhisme un petit peu plus tardif, et ça, je trouve ça intéressant, notamment chez Nagarjuna, grand penseur du bouddhisme du deuxième siècle, qui fait vraiment autorité dans la tradition plus tardive, c'est le philosophe, le grand penseur, et dans un enseignement qu'il donne à un roi. C'est étonnant parce que là, c'est un roi qui lui donne un enseignement. Alors, pour le détail, quand il enseigne à un roi, un moine et autre, il ne va pas parler du corps avec tout l'intérieur, etc. Ça ne se fait pas parce que. On ne parle pas de choses comme ceci. Quand on parle aux moines, aux nonnes, on peut parler de ceci. Donc, il ne va pas parler de cet aspect-là. Mais quand même, il souligne ici, dans cet enseignement au roi, voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, si il était abondamment enseigné que l'attention au corps est le chemin particulier parcouru par les Bouddhas. Suis-le avec soin. Quand l'attention se dégrade, tout le chemin spirituel est anéanti. Donc, il dit bien, vraiment, l'attention au corps, cette présence au corps, est vraiment le chemin particulier parcouru par les Bouddhas. Donc, dans toute la tradition bouddhique, il y a cette importance, on verra, donc cette présence au corps, cette pleine conscience du corps. Et que si ceci, on le perd, on le quitte, à ce moment-là, le chemin spirituel n'est plus vraiment ancré dans la vie, dans ce qui se passe à chaque instant. Donc l'importance qui est soulignée ici, à nouveau dans presque toute la tradition bouddhique, j'ai l'impression que quelquefois elle est un peu oubliée dans le bouddhisme plus tardif, mais on la rencontre à nouveau dans le Chan chinois et dans le Zen. À nouveau, il y a l'importance de cette présence au corps et aux actions, avec tout ce qu'on trouve dans le tir à l'arc et tous les arts martiaux en Chine, où tout d'un coup on revient. Dérivé du Qigong ou du Tai Chi, où on revient à cette présence du corps qui est très importante. Dans le texte, pour revenir au Satipatthana, puisque c'est le texte sur lequel on s'appuie principalement, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit lorsqu'un méditant, une méditante marche, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit ou elle boit, il est conscient, il est pleinement conscient de ceci, pleinement conscient de marcher, de manger, de boire, si on parle des activités. Lorsqu'il tourne la tête, lorsqu'elle tend le bras, lorsqu'elle replie le bras, etc. On a tous les, lorsqu'elle regarde au loin ou près, tourne la tête. Donc, dans toute action, dans toute activité, il y a cette conscience, cette manière d'être ce corps dans le mouvement. Lorsqu'on enlève ses chaussures, lorsqu'on met ses chaussures, ça c'est bien de se le rappeler, eh bien, elle est pleinement consciente. C'est assez extraordinaire si on imagine que un des points essentiels d'un cheminement spirituel, c'est d'être conscient quand on met ses chaussures, quand on les enlève. Bon, je suis pas sûr que ça vient du sutra, parce que je suis pas sûr que vous avez des chaussures au temps du Bouddha, mais quand même, on peut quand même interpréter ceci et dire, voilà, dans chaque activité, dans chaque mouvement, dans chaque transition, il y a là cette importance d'être présent, d'être pleinement conscient dans ce qu'on fait. Non pas observer, non pas s'observer marcher, s'observer tourner la tête, s'observer tendre le bras, mais être vraiment ce mouvement, être ce corps qui, soi-même, qui tend le bras, qui tourne la tête, dans cette unicité du corps. C'est évidemment ce que nous explorons dans la méditation marchant, dans les transitions. Joseph Goldstein cite très souvent Monindra, le maître du Bengale, qui disait si lorsque vous êtes assis ou assise, vous êtes conscient ou consciente d'être assise, ça suffit, c'est la méditation. Il dit quelque chose de très simple. Dans le Satipatthana, on trouve des formulations similaires. Le simple fait d'être conscient, d'être assis, d'être assise, ceci suffit. Assis, être en marche, etc. Maintenant, être conscient ici, ça ne veut pas dire le savoir. Simplement savoir, je sais que je suis assis. Parce que ça, c'est, comme je mentionne souvent, ça serait ridicule de ne pas savoir qu'on est assis. C'est une autre problématique que celle du méditant, là. Si on ne sait pas qu'on est assis. Être pleinement conscient, c'est-à-dire être pleinement présent, c'est autre chose. Mais n'empêche, ce qui se joue là, c'est important. Être vraiment là dans cette présence, dans l'assise. Ou simplement savoir. Savoir, ça veut dire, d'une certaine manière, on peut mettre un mot, un jugement, je suis assis, je suis assise. Mais ça vient aussi, on peut se mettre dans l'assise en tant qu'observateur de soi-même. On vient à l'assise, on s'assied, et puis voilà, on est attaché à la forme, à l'image du corps en position assise. Et vous voyez ce qu'il y a de problématique dans ceci. Ça aide déjà à ne pas être distrait, donc on peut se satisfaire de ceci parce que tout d'un coup je suis vraiment là sur l'image de moi-même assis, donc je ne pense pas à beaucoup d'autres choses, je me calme, mais c'est quelque chose qui n'est pas en vie. Pourquoi? Parce que cette image, elle est la même du début et la fin de l'assise. L'image de moi-même assis, elle ne change pas. Donc c'est un processus dans ce cas-là qui manque de vie, qui est juste une abstraction, une imagination. Donc tout notre approche de cette présence corporelle, si vous voulez, elle passe un peu d'un point de vue à l'autre, c'est-à-dire d'un point de vue de se traiter en objet d'observation, même si on ne le mentionnerait jamais comme ceci, à une expérience du vécu, à être vraiment ce corps dans cette expérience de l'assise. Ça peut être le corps dans la position, mais ça peut être aussi une zone douloureuse, où tout d'un coup on a cette image, par exemple, du genou. Ça pourrait être l'image de l'abdomen, de la poitrine, quand on a choisi ces zones-là, d'un genou, d'une épaule qui peut être un petit peu douloureux. Et à ce moment-là, on s'attache à l'image de la zone. Et on essaye d'être présent à ceci, de ressentir. Et si on fait trop d'efforts, souvent on met un effort, on se fixe sur l'image de la zone, et en fait on ne ressent pas. Ça pourrait être aussi problème dans le fait de l'attention à la respiration, on se fixe sur la zone, abdomen ou poitrine, vraiment on essaie d'être très fixé sur cette représentation, et on dit c'est bizarre, je ne ressens pas. C'est évident que plus on va mettre d'importance dans la représentation, dans l'image, moins on aura pour le ressenti vraiment. Alors, souvent, évidemment, ce n'est pas 100% d'image et 0% des ressentis, mais il y a peut-être 80% de l'image et 20% des ressentis, et puis lentement, ça va basculer dans la pratique. De même, donc, pour la douleur, on a là tout d'un coup douleur, ma douleur à mon genou, par exemple. Ben voilà, douleur, ce terme-là ne change pas pendant toute la durée de la douleur. Ma douleur, on sent bien, c'est ma douleur, ah, c'est celle que je reconnais, que j'ai, etc., quelles qu'en soient les raisons. On est là dans une représentation, dans un concept, et puis tout d'un coup, on s'intéresse à la sensation ou aux sensations elles-mêmes. On relâche un peu l'importance donnée à cette image de la zone douloureuse ou du concept douleur, et tout d'un coup, on ressent vraiment, tiens, ce qui se passe là, dans cette zone-là. Voilà, on sent la vie qui est là, on sent tout d'un coup ces, je ne sais pas, ces picotements, ces vibrations, ce sont des termes un peu vagues, mais on sent bien que là, il y a quelque chose de vivant, et ce quelque chose de vivant, c'est une personne et c'est nous-mêmes. Donc dans le processus, on a bien ce passage ou cette alternance quelquefois de représentation, d'image du corps un peu comme objet, qu'on est à distance, et puis d'un corps tout d'un coup qu'on habite pleinement. Et quand on essaye évidemment d'être présent à la marche ou aux transitions, lorsque on attache une trop grande importance à l'image du corps, alors évidemment on marche, on sait bien qu'on marche, mais on n'habite pas vraiment les mouvements. Alors quelquefois, on essaye de forcer un petit peu, je l'ai mentionné aussi l'autre jour, les personnes vont marcher pieds nus sur du gravier. Pourquoi pas? Mais là, on est en train de forcer, on est en train de forcer la sensation alors que on n'essaye pas d'explorer l'attitude. Alors ça peut aider si on n'est pas très en contact, mais ça me semble, d'abord j'ai horreur de marcher pieds nus sur du gravier, mais ça me semble quand même quelque chose d'un peu forcé. Aussi parce que dans ce mouvement, il n'y a pas seulement les sensations dans les pieds, il y a la présence dans tout le corps. Je pensais au vocabulaire qu'emploient certaines danseuses en parlant d'un corps de présence, un être-corps. Ouais. Être-corps, elle essaie bien d'exprimer ceci, un être-corps, non pas avoir un corps, observer un corps, mais être-corps. Et dans ce sens-là, il n'y a pas corps et esprit. On se rend bien compte que le langage est prisonnier de cette distinction corps et esprit. Quand on les conçoit de manière différente, après on n'arrive plus à les réconcilier. Mais il y a ce corps de présence dans l'unité, qui est un corps de vie et non pas un corps objet. Mais quand on en fait un objet, on n'arrive plus à le relier à la conscience. Ça devient compliqué. Donc le ressentir, et ça c'est une découverte immense, je l'ai déjà mentionné souvent, c'est que si déjà dans la pratique de la méditation on pouvait tout d'un coup être ce corps de présence, retrouver cette manière d'être corporellement, c'est déjà un gain immense, c'est une découverte immense. Ça veut dire qu'on est vraiment en vie. On n'est pas à distance de soi-même dans une représentation de soi-même. Aussi avec ce que ça implique, si vous voulez, c'est-à-dire que ça implique aussi une absence de stress. Le stress vient de cette séparation entre le corps et l'esprit, entre ce corps objet et puis le corps vécu. Parce que l'esprit va vite, il peut, voilà, moi je suis déjà dans le réfectoire, mentalement c'est vite fait, et puis si tout d'un coup le corps, ben, il n'arrive pas à suivre. Donc il y a constamment du stress. Alors que quand il y a cette unité, quand ils sont en phase, manière de parler, parce qu'ils ne sont quand même pas séparés, à ce moment-là, il y a déjà un immense calme. Il y a une tranquillité qui vient de cette non-séparation du corps et de l'esprit, qui vient pas seulement parce que on a fixé l'esprit sur, la conscience sur certains domaines d'expérience, comme on le fait, Évidemment, c'est un moyen, mais lorsque le corps et l'esprit sont unifiés, réunis, naturellement, il y a un apaisement naturel. Quelque chose de complètement spontané dans cette tranquillité. Je me rappelle au Brésil d'avoir fait un rite chamanique au bord de la mer. C'était un lieu magnifique. Il y avait, on était relié à un centre qui était à une certaine distance à l'extérieur de São Paulo. Joli endroit, mais on est allé pour ce rituel-là dans ce week-end au bord de la mer. On allait prendre 3 heures de route pour aller au bord de la mer. On a fait un rituel au bord de la mer. C'était magnifique parce qu'il y avait des dauphins qui venaient sauter une dizaine de mètres de d'où on faisait le rituel. C'était vraiment magnifique. On a fait un rituel assez simple, pas très compliqué, pendant 2 heures, si vous voulez, peut-être le dimanche matin. Le soir, le bus nous a ramenés au Campo Sagrado, à l'endroit des rituels. Les gens sont rentrés chez eux, les Brésiliens, parce qu'ils devaient travailler le lundi. Moi, je suis resté tout seul dans cet endroit-là pour attendre des méditants qui venaient la semaine d'après. Et j'ai été complètement surpris cette semaine d'avoir un esprit totalement calme et sans que j'aie besoin d'être attentif et autre, parce que c'est comme si dans ce rituel-là, eh bien, le corps et l'esprit s'étant complètement, enfin, étant complètement en phase, tout d'un coup, il y avait un apaisement naturel. Pas besoin de faire attention, de fixer l'attention sur quelque chose. Il y avait un apaisement naturel parce que tout d'un coup, il y avait cette unité du corps et de l'esprit. Donc c'est ce domaine d'exploration qu'on a là dans la marche, dans les transitions. Les transitions sont immensément riches quand on va depuis là au réfectoire ou à l'endroit où on veut marcher ou dans sa chambre. Cette richesse des mouvements, comme j'ai dit, mettre ou enlever ses chaussures, par exemple. Aller prendre une tasse de thé. Un mouvement intéressant, lorsqu'on va prendre une tasse de thé, le mouvement de la main, etc. Il y a tout un petit ballet là qui se passe. Donc, d'utiliser toutes ces circonstances comme chemin spirituel. Alors, nos journées sont pleines, évidemment, mais sans que ça soit dans l'effort. Il faut à tout prix, non par curiosité, c'est une manière d'être là, d'explorer à chaque instant ce qui se passe. Donc quand on parle de ces deux aspects, enfin, je parle des deux corps, une manière de parler, mais cet aspect du corps de représentation, du corps, l'image du corps à laquelle on peut s'attacher, et puis ce corps vécu qui est beaucoup plus intime, eh bien, c'est pas pour se battre contre l'image du corps. Quand on s'assied, il est bien normal, je crois, qu'on commence par une image du corps, une image d'une zone du corps. Mais qu'on ne s'arrête pas là, tout d'un coup on se dit, oui, mais qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je vis dans cette zone-là? Qu'est-ce que je vis dans le corps? On a parlé de trois dimensions, par exemple l'aspect volumineux du corps. Quand on parle d'aspect volumineux, on enlève déjà un petit peu cet aspect uniquement représentation. Parce que le volume, il occupe un certain espace. Il n'est plus simplement cette image. Donc un champ d'exploration immense. Et si on mentionne ceci, c'est simplement pour ne pas s'attacher à des habitudes. Non pas qu'il faudra se battre contre l'image du corps, mais pas s'attacher, pas croire que là s'arrête la méditation. Quand je fixe mon attention sur l'image d'une zone du corps, ou sur l'image du corps, mais ouvrir ceci, ouvrir cette possibilité, ok, je comprends, il y a cette image-là, mais dans le fond, quelle température, hein, comment est-ce que je le vis? Si vous voulez, on passe à travers l'image et tout d'un coup, on entre dans, comme manière de parler, dans le vécu corporel lui-même. Donc, cette mention de ces deux aspects, c'est juste pour ne pas se fixer sur une en croyant que là se résume toute notre pratique. Je voulais parler d'autres choses encore qui sont aussi des habitudes qui peuvent nous limiter, nous enfermer. Nouveau, ce n'est pas pour se battre contre, mais c'est pour se rendre compte comment on vit dans une sorte de réseau de croyances dans lequel on se complaît et qu'on croit être la seule possibilité. Je l'ai déjà mentionné l'autre soir, mais enfin l'autre jour, l'autre après-midi, mais pour le bouddhisme, la perception du monde est une perception d'un monde éphémère, tout change d'instant en instant. J'ai mentionné comment certaines traditions voulaient à tout prix chercher quelque chose de stable, d'immuable derrière, qui serait digne de confiance. Et comment la particularité du bouddhisme et du Bouddha dans ce cas-là, c'est de dire non, on ne cherche pas quelque chose de stable, d'immuable derrière le monde des apparences. La réalité, c'est ce monde des apparences. Il n'y en a pas d'autre. Et ce monde des apparences change d'instant en instant. Il est dans un flux constant. Ça revient constamment dans les enseignements du Bouddha. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Les autres sont imaginaires. Et pourtant, notre représentation du monde, dans le langage, dans d'autres manières de, je sais pas, de concevoir, de discuter, c'est un monde figé. La représentation que nous avons, nous vivons dans un monde figé. Alors, bon, on se rend bien compte que les choses changent, faut pas. Tiens, le temps, il a changé depuis la semaine passée. Bon, on n'est pas aveugle, mais n'empêche que nous vivons quand même dans un monde figé. Je vais essayer de vous décrire comment il est figé. Il est statique. Le langage est statique. Le langage, il ne bouge pas. Je vais parler d'une fleur, par exemple. Ben, la fleur, je peux en parler pendant des lustres, elle ne va pas se faner. Donc le langage, il est statique. Fleur, on ne sait pas à quel moment fleur. Voilà. Même j'ai parlé de chien, il n'y a pas besoin de le nourrir. Je peux en parler pendant longtemps parce que c'est une image statique. Et nous vivons dans ce monde de choses statiques qui, dans le fond, nous coupe de ce monde vivant qui change d'instant en instant. Nous vivons dans un monde plus superficiel d'abstraction qui nous donne l'illusion de la stabilité. Donc ces concepts ne changent pas. Si je prends l'exemple, par exemple, du moi, ben, je parle de moi et j'ai l'impression que c'est le même moi, alors, qui se passe aux différents âges de ma vie. Mais c'est le même moi. Donc cette image-là, ce concept, il ne change pas. Ce qui quand même ne semble pas du tout réel. Il ne change pas. Il est là constamment le même. Ou l'image de mon quartier. Mon quartier, j'imagine qu'il y a très peu de quartiers qui n'ont pas changé. Donc si j'imagine mon quartier depuis quand même quelques décennies, tout a changé. Mais mon quartier, voilà, ça, il n'y a aucune indication que c'est quelque chose qui change, c'est figé. Donc on a affaire à des choses figées comme ceci, on parle de choses figées, et pourtant on est dans un monde où tout change. Et ce monde figé d'abstraction, ce n'est pas le monde réel, ce n'est pas le monde vivant, c'est un monde superficiel. Donc le monde dans lequel nous vivons, ce monde aussi de l'espace, ce monde à trois dimensions, c'est un monde figé. Je vais aborder ceci un petit peu. Donc nous vivons dans un monde figé, ce monde à trois dimensions. Bah, trois dimensions, c'est évidemment trois directions dans l'espace. On peut dire largeur, profondeur, hauteur. Alors c'est ce qui est extraordinaire, c'est que on a l'impression que quand on a dit ceci, on a situé l'événement. Je vais vous venir sur quelque chose d'un peu plus pratique, autrement ça peut sembler abstrait. Voilà, si je vous donne rendez-vous à la rue Vaugirard au 530, au troisième étage dans le bureau. Je donne la rue Vaugirard parce qu'elle traverse tout Paris, elle est immense, donc voilà. Donc on dit, ben voilà, rue Vaugirard, 530, troisième étage. Cool. Alors on a la rue, on a le numéro qui donne cette dimension-là, et puis le troisième étage. Donc on sait exactement où se rencontrer. D'accord? Donc rendez-vous. Vous êtes d'accord? Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Le temps. Alors, on va pas se rendre. Voilà, on va pas se. Voilà, on se voit rue Vaugirard au troisième étage, 530. D'accord. Et puis il manque une dimension essentielle. C'est le moment. Donc on est d'une certaine manière dans un monde où les choses sont statiques, comme cette rue Vaugirard, 533e étage, parce que tous les jours c'est la même chose. C'est tout le temps la même chose. Mais c'est différent si j'imagine qu'on se rencontrait le matin ou le soir, on a allumé la lumière, etc. Donc tout notre monde, il est fait de ces choses statiques, à trois dimensions, où la notion du temps n'intervient pas, et pourtant, le temps, c'est ce qui marque le changement. Donc on oublie ceci. Maintenant, si je reviens à l'image du moi, ben, je dis, ben voilà, moi, je ne sais pas, à cette époque-là, quand j'avais 6 ans et demi, etc., ben voilà, mais ça veut dire que ce n'est pas le même moi quand j'avais 12 ans. Ça lui donne cette instantanéité. Donc chaque fois qu'on commence à mentionner le temps, précisément, on marque que c'est dans cet instant-là et que ce n'est pas dans la durée. On brise cette notion de fixité pour dire ben c'est à ce moment-là que ceci est comme ceci. Et ça change d'instant en instant. Vous voyez, si on vient s'asseoir en méditation, j'ai l'impression que voilà, je vais m'asseoir pendant toute l'assise, une assise de 45 minutes. Je peux très bien avoir cette représentation où j'ai l'impression que voilà, je suis là. Comme si je suis la rue Vaugirard, 533e étage. J'oublie complètement que c'est là à chaque instant. C'est au premier instant de l'assise pour parler comme ceci. Et puis après, c'est à cet instant-là, à cet instant-là. À chaque instant, il y a une nouvelle expérience. À chaque instant, je suis dans un espace, dans une expérience différente. Si je crois que je suis dans la même expérience, dans le même espace, ça veut dire que j'ai fixé quelque chose. Et à ce moment-là, c'est quelque chose d'abstrait qui n'est plus du tout vivant. Donc ces notions de temporalité dans l'expérience qu'on oublie, qui fait qu'on parle de généralité en ayant seulement ces trois notions, si vous voulez, d'espace, on oublie complètement, on est dans un monde où les choses ne changent pas, qu'on a fixé de cette manière-là, et qui sont une manière superficielle. Donc d'introduire la notion de temporalité dans ce sens-là, c'est de essayer d'inclure ce flux du changement constant dans nos expériences. Si je vais marcher dans la salle en dessous, le gym. Je peux avoir l'impression que voilà, je vais me déplacer dans quelque chose qui est complètement stable. Mais en fait, à chaque moment de l'expérience, c'est quelque chose de différent. Pour préciser un petit peu, on peut dire qu'à chaque instant, je suis dans une expérience différente, dans un espace différent. Alors qu'on a l'impression que l'espace est stable. C'est bizarre de dire un espace différent à chaque pas. Bon, il n'y a pas que moi qui le dis, parce qu'il faut quand même que j'assure mes arrières. Donc c'est le grand physicien Schrödinger qui parle de ceci, d'un espace qui est différent à chaque instant. Aussi la perception, etc. Et il ne peut pas exister de manière stable. Donc ceci commence à enlever ces notions qu'on pourrait se mouvoir dans un monde qui est complètement stable et qui peut nous donner une illusion rassurante, mais à quel prix, puisqu'il nous coûte la vie. Ça devient superficiel. Puis alors après, comme c'est superficiel, on essaye de trouver quelque chose d'autre et on vient à un stage de méditation. On cherche quelque chose. Si on n'était pas dans ce monde superficiel, on n'aurait pas besoin de chercher. C'est bien parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. On vient à la méditation, on vient à d'autres choses, tai chi, qigong, yoga et autres. Mais c'est parce qu'on se rend compte qu'il manque quelque chose d'essentiel. On le cherche, à mon avis, au bon endroit, dans tous ces endroits-là. Non pas en cumulant les plaisirs sensoriels qui n'offrent pas de possibilités. Donc cette fixité, cette stabilité du monde dans lequel on veut vivre, c'est vraiment un monde amorphe et sans vie. Alors lorsqu'on ose entrer dans le courant du flux, du changement, alors là, il y a quelque chose en vie. Et en plus là, on découvre cet espace de liberté dont parle le bouddhisme. La liberté vient du fait de ne pas résister à ce flux qui change. Autrement, on est emprisonné, enfermé dans ce monde fixe, stable de l'imaginaire. Pour se préserver, on vit dans ce monde stable et fixe, mais on se perd complètement. Ce qu'on préserve, c'est quelque chose qui est complètement sans vie. C'est quand même cher payé. Pour être vaguement rassuré, pas complètement d'ailleurs, on sait qu'on n'est jamais complètement rassuré. Donc à nouveau, il ne s'agit pas de lutter contre les représentations, mais c'est revenir plus à l'expérience, à ce qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis. On s'intéresse à ceci et on se rend compte si on s'attache, si on fixe des images, etc. Ma douleur, mais oui, mais qu'est-ce qu'elle est en cet instant? Ma somnolence, mais qu'est-ce qu'elle est en cet instant? Juste en cet instant-là, et en celui-ci, à chaque instant. Dès qu'on fixe nos expériences, ma tristesse, mon inquiétude, quand on les fixe à ce moment-là, ça devient quelque chose de stable qui n'est pas vivant. Alors, on fixe les choses, mon inquiétude, voilà, mon angoisse, ma tristesse, on les fixe, puis après on voudrait changer. Je suis venu pour m'en débarrasser. C'est compliqué. Pour s'en débarrasser, tout d'abord, faut bien entrer dans ce flux constant. Oui, il y a peut-être mon inquiétude, même ma joie, ma tranquillité, mais d'instant en instant. Alors, quelque chose peut changer de fondamental. Simplement, donc, se rendre compte quand on s'attache à ces représentations, essayer de revenir à juste dans l'instant, bien reconnaître la joie, ma tranquillité en cet instant, ma fatigue en cet instant-là, juste en cet instant, pas celle d'avant ni celle d'après, et à ce moment-là, on peut être plus profondément en contact avec la vie. Donc cette manière qu'a le concept, le langage, les représentations, dans le fond, de nous couper de la vie, c'est pas uniquement quelque chose qui serait mentionné par les bouddhistes. Étonnamment, j'ai l'impression que c'est plutôt vers le XXe siècle que les poètes et autres ont commencé à se réintéresser à ce flux du changement. Avant, on avait les grands penseurs occidentaux qui semblaient quand même attachés pas mal à ces choses immuables derrière les apparences. Et puis là, au XXe siècle, quoi, je crois qu'on s'est beaucoup questionné. Je vous donne une citation d'un poète, Yves Bonnefoy, qui se rend bien compte qu'on utilise les concepts, etc., pour cacher le côté éphémère de la vie. Les poètes sont évidemment immensément questionnés sur le rôle du langage pour essayer de ne pas s'enfermer dans ceci. Alors voilà ce qu'il dit, Yves Bonnefoy. Il dit, parce qu'on meurt dans ce monde, et pour nier le destin, donc nier qu'on meurt dans le monde, si vous voulez, nier ce côté éphémère, l'homme a bâti de concepts cette demeure logique. Il a bâti de concepts cette demeure logique, où les seuls principes qui vaillent sont de permanence et d'identité. Demeure faite de mots, mais éternelle. Voilà, on a fait une sorte de monde dans lequel on vit, voilà, bâti de concepts cette demeure logique. où les seuls principes qui vaillent sont de permanence et d'identité. Cette identité de, voilà, moi, 6 ans, moi, 12 ans, moi, 30 ans. D'identité. Donc, c'est cette manière, dans le fond, de s'attacher qui nous coupe de la vie. Donc il y a là quelque chose d'assez, qu'est-ce qu'on pourrait dire, d'assez, je vais dire terre à terre, mais on revient vraiment à la plus grande simplicité dans l'expérience, en montrant comment ces constructions pour se couper du vécu lui-même sont des manières abstraites de se couper du vivant qui change d'instant en instant. Et là, on revient vraiment à une sorte de respect pour le monde dans lequel nous vivons, ce monde éphémère. On ne nie pas ce monde éphémère, on le respecte pour ce qu'il est. Nietzsche parlait de rester fidèle à la terre. La terre dans une terre de changement où tout change. Plutôt que d'une certaine manière la bafouer ou la nier en voulant s'attacher dans un monde abstrait de stabilité. Donc voilà quelques réflexions donc sur la richesse de cette méditation sur le corps. On voit bien quelquefois il est comme objet, on l'observe et quelquefois on est ce corps. Et puis aussi cette notion de temporalité qui, pour moi, elle est tellement importante parce que j'ai l'impression qu'elle révèle quel est l'enjeu de la profondeur de la méditation. Tant qu'on reste dans des expériences qui ont de la durée, on est dans quelque chose d'abstrait, on ne peut pas approfondir la méditation. Tant qu'on reste dans quelque chose qui a de la durée. Lorsque chaque expérience, d'instant en instant, est dépourvue de durée, ni même d'ailleurs de côté éphémère, elle est simplement là, ce qu'elle a à chaque instant, sans qu'on s'attache, ou sans que le moment d'avant ou après ait aucun sens, à ce moment-là, on se rend compte qu'on est dans cette intimité à l'expérience, niveau 3 dont j'avais parlé la dernière fois, donc qui est vraiment la pratique de Vipassana qui touche sa profondeur dans l'instant. On ne peut pas être autrement. Grand maître du Dzogchen, Jigme Limpa, Dieu sait s'il y a des pratiques compliquées avec des mandalas, etc., mais l'essentiel de la pratique, c'est la conscience de l'expérience présente, et il parle des expériences ordinaires. Et il n'a pas dit des expériences fantastiques, vous voyez, je ne sais pas moi, des lumières et tout ça. Non, non, il a dit, Tamel Kishepa, ça veut dire l'expérience ordinaire. Voilà comment l'expérience ordinaire dans l'instant, mais dans cet instant-là, dépourvu de toute notion d'avant et d'après, de durée, juste dans cet instant-là. Voilà la clé pour l'approfondissement de la pratique. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. On explore. On explore. C'est vraiment une manière de se disposer dans l'expérience à chaque instant qui fait que ceci, tout d'un coup, nous paraît de plus en plus clair. C'est jamais une fois pour toutes, par moment ça nous paraît clair et ça ne veut pas dire que dans une retraite ça sera l'avant-dernier jour où ça va être plus clair. Quelquefois c'est le deuxième jour, puis on veut retrouver, puis on ne retrouve pas pendant les 10 prochaines années. Non, pendant juste 1 ou 2 jours, mais c'est vrai que cette disponibilité, quelquefois, elle est juste là dans l'instant. Moi je trouve ça assez fascinant que ce n'est pas un processus graduel. Tout d'un coup là, pour une raison ou une autre, je suis dans cette disponibilité et ça me paraît évident. Dans la mesure où je ne suis pas en train de trop m'agiter pour voiler ceci. Voilà donc ces quelques remarques pour essayer d'amener un certain éclairage dans la pratique, en évoquant un peu le corps dans ces deux aspects, et puis aussi la notion de temporalité. Donc à explorer, hein, j'ai été très bref dans cette notion de temporalité, mais qui me semble quand même assez intéressante. Voilà, donc à vous d'explorer dans la pratique de la méditation en marchant, en mouvement. Formulez à votre manière, mais explorez un petit peu ceci. Alors le premier élément, c'est quand vous allez mettre vos chaussures. Dans les retraites, c'est quelquefois intéressant de voir comment les chaussures sont disposées à l'entrée des salles de méditation. Des fois, c'est dans un chaos extraordinaire, et des fois, on a l'impression que les gens étaient un peu plus là, quoi. Ou les tasses de thé, par exemple. À moitié vide, à moitié pleine, c'est vraiment un vrai souk. Ou bien, tiens, les gens, ils ont pris le soin de vider leurs tasses, etc. Ils ont pris le temps d'aller jeter le sachet qui traîne là depuis 3 jours. Tejania disait, quand son maître voulait savoir comment il méditait, il l'invitait à manger. Puis il ne posait pas les questions sur sa pratique, il l'invitait à manger. Puis là, il savait où il en était. Bon, nous, on s'invite tous à manger, donc on voit bien où on en est. Donc voilà. Donc à vous d'explorer.